Bon, bah, bonjour ou presque bonsoir, vu l'heure. Donc, bon, on va rapidement présenter le livre, puisque je pense que ce qui est intéressant et important, c'est un peu d'ailleurs ce que Pauline Tanon et moi-même avons voulu, c'est-à-dire que c'est un livre qui entraîne à lire Gatti, à lire l'œuvre. Alors, comme Gatti est avec nous, on va l'entraîner tout à l'heure, dès qu'on aura fait cette rapide présentation, à lire un morceau de son œuvre qu'il a écrit, mais ça, il vous expliquera quand est-ce qu'il l'a écrit. Donc, ce livre, c'est une commande d'une maison d'édition Actes Sud, bien connue. Et cette maison d'édition m'approche, me dit, voilà, est-ce que vous voulez écrire un livre sur Gatti ? Et quelques temps auparavant, 2 ans auparavant, on avait vu un travail réalisé par Pauline Tanon, un travail qui s'intitulait « Aux arbres citoyens » et qui était une très jolie adaptation d'une œuvre immense qui s'appelle « La parole errante » qui fait 1700 pages et d'un autre poème qui s'appelle « Les arbres de Ville-Évrard quand passent les cigognes ». Et elle en avait fait une adaptation d'une heure, et ce qui était impressionnant, parce qu'un livre de 1700 pages, vous vous dites, attendez, vous exagérez. Enfin, eh ben non, et ce qui était intéressant, c'est que elle ne résumait pas tout dans son heure, mais elle donnait justement, et c'est ça qui était intéressant, elle donnait envie de lire. Elle donnait envie de découvrir et de lire l'œuvre dans son intégralité. Donc, quand Actes Sud m'a fait cette demande, je me suis dit que jamais je serais... Moi, je travaille avec Armand Gatti depuis longtemps, depuis 40 ans, un peu plus même. J'ai commencé à travailler avec la tournée de V comme Vietnam, qui d'ailleurs s'est déroulée dans un théâtre qui se trouvait à 2 pas d'ici. Enfin, en France, en plein endroit, mais à Bordeaux, on a joué. Et donc, c'était un théâtre cinéma qui se trouvait à 2 pas d'ici. Je l'ai reconnu l'autre fois. Et donc, et depuis 1967, parce que c'est la date à laquelle on a organisé cette tournée, donc j'avais effectivement les connaissances historiques, les connaissances de tout son parcours, etc., etc. Mais c'est vrai que je n'avais sûrement pas le savoir-faire de Pauline Tanon, qui elle n'avait pas, elle, et heureusement pour elle, elle n'a pas mon âge, elle n'avait pas toute la connaissance que je pouvais avoir du parcours de Gatti, mais en revanche, elle avait une approche plutôt, qu'on avait vue dans son spectacle aux arbres citoyens, qui m'a fait lui proposer, dire voilà, est-ce que tu as envie de travailler avec moi pour écrire ce livre, parce que à deux j'arriverai à le faire parce que tu es là, tout seul je ne suis pas sûr que j'arriverai à tenir les délais, parce qu'en plus les délais étaient courts, la commande était au mois de juillet si je ne me trompe,
septembre,
voilà. La commande, oui, c'est ça. Au mois de juillet, c'était une idée, et au mois de septembre, la commande est faite. Et tout ça, il fallait que tout soit remis au mois de fin décembre, début janvier. Donc voilà. Donc le livre, c'est un, il est là, la sortie. C'est un parcours de Gatti avec toute une série d'extraits de son œuvre, une série d'entretiens qu'il a pu donner au cours de sa vie, des références des gens qui parlent de lui, comme des grands critiques théâtrales comme Bernard Dort, ou même je prends cette anecdote parce que ça fait toujours un peu bondir Gatti, mais comme c'est une anecdote que lui-même reprend, on a repris par exemple il avait dans les années 60 un critique théâtral qui s'appelait Jean-Jacques Gauthier. Et effectivement, il était infernal sur Gatti, il racontait, etc. etc. Et alors, il vient à Toulouse voir un spectacle qui s'appelle Le Poisson Noir. Et alors, il en fait une description, on reprend d'ailleurs un petit extrait, fait une magnifique description sur la mise en scène. Dommage, l'auteur est communiste. Voilà, c'est, voilà, bon, c'est pour dire l'ambiance comme ça de cet auteur, enfin de cet auteur, de cette, de ce, de cette critique, et qui effectivement en même temps avait décrit ce qu'il avait vu, c'est-à-dire un spectacle dont il disait qu'il était dans les théâtres du monde, c'était parmi les théâtres du monde, c'était un des meilleurs spectacles qu'il n'ait jamais vu. Alors, il y a toute une série d'anecdotes, d'informations sur le parcours, parce que l'œuvre et la vie de Getty sont intimement liés. Son parcours journalistique, qui est des années 50, il va de ses rencontres, quand il va en Chine, c'est en tant que journaliste, mais il va à partir de là en tirer toute une série d'éléments fondamentaux pour son œuvre, ce plan de son écriture, ce plan de ses rencontres, et plusieurs de ses pièces sont inspirées par ses voyages en Chine, comme pareil pour le Guatemala, comme pareil pour le Japon. Donc toute une série de voyages qu'il a fait dans les années 50 vont après lui donner, j'allais dire, la documentation, l'inspiration, la documentation, les informations, tout ce qu'il faut pour écrire là. Et puis sa vie en tant que telle, son histoire de son enfance, sa première grande, j'allais dire, réussite, enfin réussite entre guillemets, je sais que Getty n'aime pas le mot, mais je m'en excuse auprès de lui, mais la première pièce qui va le faire connaître, ça, il est vrai, c'est la vie de l'éboueur Auguste Jay, qui est une pièce écrite à partir de son père, enfin sur l'histoire de son père, qui a été montée au TNP, enfin ce qui va devenir le TNP, mais le Théâtre de la Cité de Villeurbanne, est monté par Jacques Rosner. Et après,
qui était anarchiste.
Absolument. Donc son père, qui était anarchiste, n'oublions pas, ce qui est vrai, est un grand libertaire qui admet ça, tout ça, mais on ne va pas tout raconter, parce que pas mal de choses sont dans le livre. Sa mère était une franciscaine, son père était anarchiste, et ce qui donne cette patte exceptionnelle, oserais-je dire, et la patte exceptionnelle, c'est lui, c'est Armand Getty. Alors, donc, on raconte l'histoire de ces pièces. À la fin du livre, il y a la liste de toutes ces pièces, avec un résumé, c'est résumé qu'on a pas fait nous-mêmes, hein, quelques exceptions. Donc on a pris beaucoup à l'extérieur.
Le plus possible, mais il n'y avait pas toujours.
On a pris beaucoup de résumés, enfin existants déjà, soit des résumés que Getty avait fait dans des entretiens, soit de résumés faits par des critiques ou par des gens qui travaillaient avec et sur Getty. Et puis une partie biographie qui raconte son itinéraire, qui est exceptionnel, d'autant plus que son itinéraire va commencer en 1924 à Monaco. Donc voilà, et qu'il est toujours là, et l'itinéraire est toujours en train de se faire, puisque la dernière série de pièces qui s'appelle La traversée des langages, qui est toute une réflexion sur la science et cathédrale, résistance et cathédrale. Toute cette série de pièces qui fait, il y en a, si je ne me trompe, 15, 16. Une de ces pièces-là va être travaillée par des élèves de l'école supérieure d'art dramatique à Lyon, en tous les cas, avec Getty lui-même et des assistants pendant un mois, au mois de juillet. Donc le parcours continue toujours. Voilà, donc ça me permettait de brosser comme ça les choses. Mais d'ailleurs, juste, c'est une anecdote comme ça avec dans mon histoire avec Getty, c'est l'heure qui m'y fait penser. Mais une de ses pièces, Chant public devant deux chaises électriques, est jouée au Palais de Chaillot, un grand sur l'histoire de Sacco et Vanzetti. Un grand succès, un peu des critiques un peu mitigées, mais un immense succès public, où c'est vraiment un événement assez fort, très fort même dans le théâtre français, en 1966. Et moi, à l'époque, je suis directeur, en fait, adjoint d'un institut qui s'appelle la Maison des Lettres à Paris, et on invite Armand Getty, et cet institut faisait régulièrement ses réunions à la Sorbonne. Donc on va à la Sorbonne, etc. Donc la salle est pleine, et tout, on commence le débat, etc. Et maintenant, vu l'âge et le fait que je le côtoie depuis longtemps, j'ai quelques aisances pour parler de son œuvre et pour parler en général, mais à l'époque, j'étais un peu plus coincé, comme on dit. Et donc, bon, je présente un peu Yati rapidement, mais c'est pas grave, il part, etc. Et puis, vers les minuit moins le quart, parce que cet amphithéâtre fermé à minuit, vers les minuit, il y a un appariteur qui lève la main, qui me fait un signe, comme ça, faisant dire il faut vraiment arrêter, parce que à minuit, tout ferme. Donc, j'interromps Yati, ce qui est tout simple, compliqué, mais c'est pas très compliqué. Et j'essaye de faire un résumé, comme ça. Mal m'en a pris, d'un seul coup, il voyait bien que j'avais du mal à faire un résumé, et donc il reprend immédiatement la parole et il fait lui-même un magnifique résumé qui, heureusement, ne dure pas plus de 10 minutes, et à minuit juste, on peut quitter la salle. Voilà, Yati, le contre-opéra.
Yati a aussi la qualité de très bien parler de ce qu'il fait, oui. Ce qui n'est pas le cas de tous les créateurs, oui. De sa parole, on a collecté beaucoup des interviews données au fur et à mesure des années. Et comme en plus, je crois que vous êtes toujours en accord avec vous-même, vous ne vous êtes pas renié, vous n'avez pas, votre pensée a évolué, mais elle n'a pas changé. Les interviews de 1967 révèlent une pensée qui est assez, enfin qui est la base des développements actuels. Voilà. Oui. Donc c'est bien, c'est quelqu'un. On n'a pas besoin d'ajouter grand-chose, sauf de vous céder la parole.
Alors, je vais vous lire, pour commencer, on verra après, quelque chose qui a été écrit en prison. C'était pendant la Résistance, alors je l'ai connu sous toutes ses formes, c'est-à-dire non seulement dans un maquis, hein, mais dans un camp de concentration, dans les prisons, dans le etc. Et ça, c'est, dirais-je, un ensemble de réflexions qui ont été faites lorsque j'étais en prison. J'étais en prison, mais c'était pendant la Résistance. Enfin, et j'ai été arrêté à ce moment-là, et bon. Disons que lorsque je me suis évadé, parce que j'ai pensé qu'il valait mieux être ailleurs que, hein, sous prétexte que c'était la Résistance, il valait mieux être dans une forêt que dans une prison, je me suis évadé et j'ai évidemment rien pu amener de ce que... j'avais en prison, et en particulier les quelques écrits, parce que, évidemment, la prison a un très grand avantage, c'est que vous pouvez très très bien et très 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 facilement, disons, penser, écrire, faire, etc. Disons, ça a un avantage... pour l'écriture. C'est le seul, d'ailleurs. Bon. Alors, évidemment, j'ai tout laissé et puis je suis parti. Et ce n'est que des années après, la guerre était finie, tout était, etc. Et à une prise de parole que j'avais faite, c'était à Limoges, c'était une prise de parole que j'avais faite pour Guingouin, le maquis dans lequel nous étions, enfin, etc. Disons, il y a eu, parmi les spectateurs, quelqu'un que je n'attendais pas du tout, un curé. Et à la fin, le curé est venu, c'était le curé de Tulle, et m'a tendu, dit voilà. Lorsque vous avez, il y a eu votre évasion, j'ai pensé qu'il valait mieux essayer de mettre de côté vos écrits et ce qui vous appartenait. J'ai pu avoir les écrits parce que le gardien bon, qu'est-ce qu'on en a à foutre, etc., d'écrit ou de main. Et c'est comme ça que c'est par un curé que la parole m'a été restituée. Voilà. Et il faut dire aussi, a beaucoup facilité la chose, hein, c'est que j'avais un père qui était anarchiste, combattant, etc. D'ailleurs, il s'est fait massacrer par le système, il s'est fait tuer. Et donc, mais qui avait pris pour son groupe anarchiste le nom de Saint François d'Assise. Voilà. Alors, essayez de vous y retrouver. C'est peut-être de l'histoire ancienne pour beaucoup. Je passe directement à ce qui m'a été remis ce jour-là.
Tu veux boire un petit peu de thé avant, non ?
Hein ?
Tu veux boire un peu de thé avant ?
Ouais. Ah oui, ça, c'est... Ouais. Parce que Mao Tse-tung, lorsque je l'ai vu, m'a dit au cours de... Pour un poète, il n'y avait qu'une seule boisson. Le thé. Voilà. Et c'est comme ça que depuis, je ne bois que du thé. Alors, ça s'appelle Contre-opéra. Réflexion après un film sur ce que devient le dernier cri d'un fusillé que l'image a paralysé. La main tôt de l'image que la mécanique va créer. Supprimer l'uniforme et non l'individu qui est derrière. Le groupe Manouchian, c'était l'époque des illusions trop grandes et de l'homme muet devant la caméra à manivelle. Elle disait « Liquider l'homme, non le soldat qui est devant. Le soldat, on peut le récupérer pour n'importe quel crématoire à remplir selon la norme. C'est l'empoignade des ombres et des lumières d'aujourd'hui, lesquelles sont des personnages. » Tuer le rêve, non le rêveur. La contestation, non les contestataires. La religion, non le croyant. Tuer le réel, non son image. Notre guerre civile commence là. Notre guerre civile n'a plus de palais d'hiver à prendre, n'a plus de poste dublinoise où pouvoir résister, plus de but où abandonner ses canons, plus de banque de France à investir, plus de majuscules devant qui mourir, plus de points cardinaux en sécession qui, nord ou sud, s'affrontent. Conflit de volume, de direction graphique, d'angle à opposer, conflit de profondeur, de masse, de couleur, d'intensité, de lumière, de spectre, d'arc-en-terre. Conflit entre un objet et ses dimensions, entre un événement et sa durée, notre guerre civile recommence chaque jour le combat de l'échelle contre le ciel. Sur la terre où elle s'écrit, bivouac l'imaginaire des peuples, aux fondateurs d'idéologie, édentés ou encore carnassiers, répondent les légendes en proie à l'instabilité, aux fabricants de versions triviales et aux porteurs de mots répondent les héros avec toujours le même Golgotha à remettre sur le marché des évidences. Ils sont l'événement dont nous sommes le cadran solaire, à l'image en mouvement, celle-ci ne retient dans les silhouettes historiques que notre ombre projetée, seule reste éclairée, notre part de capitulation. Analyse politique pur acier de haut fourneau dans les besmères éclairées, le monde peut se reconnaître, défiguré, transfiguré, plus encore, expliqué. Son langage est entré dans la boule cosmique qui orchestre nos chants de basse-cour, comme un coupe-coupe dans une citrouille. Désarroi du coq lorsqu'il devient chant du cygne, de la citrouille formant un couple avec l'instrument de torture. Tristesse du symbole, la lame coupe la tête des légumes pour qu'ils repoussent. Le langage politique coupe celle des hommes pour qu'elle ne repousse pas. Tragédie du symbole, le langage coupe-coupe n'a pu résister à sa lame, la sphère. Revenir en arrière, à l'intérieur de la citrouille planétaire, la lame rouille et la sève pourrit. Nécessité du symbole, au regard de tous, manches et pointes du coupe-coupe maintiennent le signe qui donne au siècle leur profil, celui de la conquête. Les ressortissants mutants de l'audio et du visuel sont gravés avec la pointe du coupe-coupe, avec comme futur déjà présent être du côté du manche. Précarité du symbole. Chanter politique devant une caméra n'est pas chanter, pas davantage dire, mais jouer avec le feu et ses changements continus de paysage. Les ombres mues à cette occasion déterrent de leur danse le besoin depuis longtemps perdu de l'innocence du dire. Annonce de film combattant. Par elle, l'histoire multiplie les rois soleils. Elle délègue au titre et à ses courtisans qui forment le générique le royaume de l'événement où la guerre de l'individu essaiera de la détourner de son cours. Toutes les musiques de générique sont des musiques de mise à mort. Le guerriero ne ressuscitera le long de la pellicule que brisé, dévasté, corrompu par les légendes colonisatrices et leurs anticorps. Parole du Che Guevara, quelles que soient les luttes dont ils sont les coutures, les films sur la résistance des peuples à entrer dans la glace des astres n'existent que pour tuer dans l'événement son pourquoi. En déplacement, la réponse. Comme les chemises rouges de Garibaldi et leur entrée dans Rome, le faisceau du projecteur ne désigne pas l'écran, mais une mue perpétuelle, le rendez-vous de l'univers devenu personnage à travers ces objets que le cadre isole avec notre guerre civile, rendez-vous repoussé au moment où il est atteint. Comme Garibaldi, ses chemises rouges et leur entrée dans Rome, blanc de l'écran, marge potentielle où les images se ruent comme les chariots du Far West sur les terres vierges. Vos plans, plans moyens, plans d'ensemble. Au bout, le meurtre de l'imprévisible. L'objet cadré, la lumière l'exporte pour l'emporter, isolé de sa vie, sur cette scène qu'on appelle image. Il doit témoigner d'une autre vie, déjà statuée dans d'autres regards que le sien. La calebasse africaine devenue vierge Congo est déjà personnage esthétique dans l'isoloir à vie des galeries de peinture où entre dans les lumières de l'image où l'on en sort. Elles sont un lieu commun, non un lieu de discussion. Derrière le lieu commun, la guerre civile à la recherche d'un compromis. Paix de l'image, celle des cimetières que l'on fleurit le jour de la Toussaint. Chant et contre-chant, tennis triste, se renvoyant l'empreinte de visage. Les rêves sur pellicule sont mesurés, n'ayant pour avancée que leur absence au sein des vocables qui les ont créés. Partout où la police montée, à pied ou en voiture, tirait, on disait, par là est passé Enrico Malatesta, les actualités filmées. Même si les images vieillissent, elles n'atteignent pas pour autant leur majorité. À Londres, Notting Street, Lord Marlborough faisait rugir les Winchester, cloches et armes à répétition, comme autant de jugements destinés à remaçonner l'univers. Malatesta venait de partir. Les actualités filmaient leurs images, étaient un intermonde où les mouvements créent des formes et les cadrages, toute une morale. À Rome, dans les champs de tir de l'État fasciste, Mussolini, avec un plumeau sur le casque, remplaçait la cible par la silhouette de l'anarchiste. Pour qu'à défaut de l'homme, à passer à l'huile de ricin, ses chemises noires puissent trouer l'idée, en gros, que dans la baie de Naples, on le payait de sa personne. Les actualités filmaient, le cadre était la certitude de l'image. L'absence de l'homme filme sa maladie. Enrico Malatesta était dans les Amériques où les gouverneurs des États du Nord visionnaient les actualités que l'anarchiste remplissait de son absence, mais avec des impacts de balles destinés à encadrer les paroles qu'il laissait derrière lui. À Boston, où Sacco et Vanzetti ont été électrocutés, 6 plombs de 7,65 le clou au sol. Ce n'est pas Capone et le Balafré, ni John Colosimo qui scia le canon de ses fusils, pas davantage les tueurs de la Tornée Palmer. Divergence doctrinale plus douloureuse que les balles de la police. Un anarchiste fou l'a descendu et rendu visible aux caméras. À la cinquième transfusion de sang, les broadcastings étaient devant lui. Les actualités filmaient. Un objet cadré peut-il se rêver à cinq dimensions comme les formes que tente d'élucider un bâton d'aveugle? Alors, Enrico, qui a tué? Ou qui a tiré? Quelqu'un qui visait mal, avec 6 balles dans le corps? Mais de qui parlez-vous? Du cinématographe, trappe ouverte dans le ciel. Une image n'a jamais eu de regard. On appelle sa rétine brûlée la caméra fusil. Cadre, nostalgie, vieille des observateurs d'astres, des gardiens de nébuleuses, dans lequel sombrent tous les mouvements terroristes à travers l'histoire bipède, cadastrée. Ils ont tenté de donner un univers à angle droit à la création, géométrie des parallèles qui ne se rencontrent pas. La magie épouse la stérilité et les lignes rendant toujours le même oracle. C'est par le cadre que l'histoire se remet en question. Chaque séquence est une de ces cavaleries sur les plaines de l'Ukraine, brandissant la révolution, mais où Trotsky l'emporte toujours sur Makhno, parce que l'efficacité l'emporte toujours sur la vieille beauté du geste, l'envol des plaines à blé. Séquence, toutes les définitions viennent y mouiller sous forme d'escadre. Peu importe les navires amiraux et les papillons qui leur servent de langage, une séquence est toujours une flotte de dissuasion qui, sous prétexte de libérer, doit anéantir ceux qui n'entrent pas dans les preuves que ces images apportent. Le cinématographe est le tombeau de l'Indien à travers le monde. L'extermination des montagnes rocheuses, les dynasties éteintes dans les vallées du Dakota, transportées sur ces fleuves d'une heure et demie, qui font le tour des mauvais rêves de la terre. Prix usuraire exigé par la funératrice ambulante, ne pouvoir être vivant ou mort sur pellicule qu'en travestie commerciale. Les traces de sang sur terre peuvent-elles devenir blessures dans le nuage qui passe? Filmer le retour du sang à ses origines le fait entrer dans la rotative des nuages. La guerre du Vietnam était-elle faite par les hommes qui en mouraient ou par les images qui la racontaient? À force d'être une partie sous-payée de la réalité, une servitude en marche vers les certitudes, l'image conduit aux impasses du mythe, une fable dans laquelle formes et couleurs filtrées par elles deviennent une identité à n'importe quel prix. C'est par le regard des images que la vie s'immole chaque jour sur chacune de nos rétines. Un jour, nous saurons quelle part de notre mort nous avons offerte au besoin de cadrer le ciel, à l'obstination du nuage qui veut se lire sur et derrière l'écran. Pourquoi faire un film ? Entrer dans cette guerre civile qui est au combat de la rue, ce que les arbres sont au jardin, lorsqu'il entre dans un tableau de peintre du dimanche, ils ne savent alors de quelle terre se défaire et dans quelle autre planter leurs racines. Pourquoi chanter le cinéma comme on chanterait à l'ablation de ses sens sur une table d'opération, pour exactement les mêmes raisons que le libertaire Berneri écrivait dans « Barcelone insurgée » sur le communiste Gramsci, mort dans la nuit mussolinienne, son ennemi d'idées, mais toujours son compagnon de combat. Pour les mêmes raisons que Berneri écrivait 3 jours avant d'être assassiné par les services de police communistes d'alors, quoi qu'il en coûte, comprendre. Donner aux hommes et à leurs images leur seule dimension crédible, la démesure, toujours faire de l'homme soit plus grand que l'homme, et non ce tribunal de toute vie auquel ces images le condamnent. La mesure. Échapper à la sentence cinématographique faite de granules de plomb, un geste en dehors du cadre est un geste qui n'existe pas. Autour du cadre, en milliers de veillées, sans mesure entre elles, les mots, tentative toujours renouvelée du dire pour chanter les mille et une rencontres dans l'univers du masculin et du féminin. Ça y est. Chaque étoile y devient multiplication d'instruments à l'intérieur d'un orchestre où gamme, chiffres, mécaniques n'ont pas accès. L'univers est une pensée. Sur terre règne la verticalité de l'arbre, quelles que soient les formes voulues par le temps et l'espace, mère, épouse, fille, la femme et l'infini de chaque créature. Que peut dire de l'infini une caméra ? En faire une vedette marchande, alimenter une séquence pornographique. L'infini, pour une caméra, ne peut être dit que par 4 lumières, jamais et toujours les mêmes. Printemps, été, automne et hiver. Et ce sont les mots qui les portent. Au commencement, était le Verbe. Et le Verbe a inventé Dieu, avec qui seuls les nuages dialoguent. Voilà. Alors,
voilà. Bon,
vous voulez l'autre, le deuxième qu'on a porté ? C'est tout à fait un autre style, hein. C'est tout à fait autre chose. Ça a été écrit quelque chose comme 8 ans, 9 ans après. C'est ça, hein.
Oui.
Ça s'appelle La dernière nuit.
Juste, on peut dire un petit mot sur ça. C'est-à-dire que Gatti va travailler à l'île d'Abo. L'île d'Abo, c'est dans la région de Lyon. Et il va faire un film qui s'appelle La première lettre. La première lettre, c'est l'histoire d'un des 27 fusillés du groupe Manouchian qui s'appelle Roger Rouxel. Et sa première lettre, c'est sa première lettre d'amour et c'est sa dernière lettre de vivant. Voilà. Et donc, l'histoire de Roger Rouxel, Gatti propose à cette ville nouvelle, enfin, à différentes personnes, de donner quelques instants de plus à vivre à travers votre imaginaire. Voilà, donc, on va, et à partir de là, on va faire le parcours de la vie de Roger Auxel, de l'enfance, dans l'usine, etc. Et à un moment donné, il y a, un groupe de gens qui, c'est une blague, je ne suis pas sûr que Gatti s'en rappelle, mais il va s'en souvenir quand je vais lui dire. Il y a un groupe de gens, de moines, pour tout dire, à qui on avait écrit, on avait envoyé ça dans plein d'informations, plein d'endroits, et qui envoient un billet, enfin un billet, mais pas un billet doux, un billet de l'argent. Et Gatti est furieux, d'abord, il n'aime pas qu'on lui envoie de l'argent, comme ça, et puis en plus des moines, donc il renvoie à l'argent, et il dit, mais donc ça vous intéresse quand même, malgré. Donc il va les voir. Et donc, ils vont les voir. C'est à l'habit de Tamier, comme je disais tout à l'heure. Et puis, après une discussion passionnante, il leur propose de prendre en charge la dernière nuit du résistant. Donc, Roger Auxel, la nuit où il est, enfin, la veille de là où il écrit sa première lettre d'amour, sa dernière lettre de vivant. Et donc, à l'issue de l'ensemble de ce travail qui a été tourné, il y a eu 6 films qui sont passés à la télé à l'époque en 79. Et le dernier film s'appelle La dernière nuit. Et c'est les moines de Tamier qui portent ce texte-là. Enfin, il n'y a pas que ce texte-là, mais enfin, le poème principal de cette partie du film, c'est ce que Gatti va lire. Sachant en plus, juste comme ça avant de terminer, que plusieurs de ces moines, pas tous, mais plusieurs de ces moines sont partis en Algérie. Quel est l'endroit de l'abbaye en Algérie où ils ont été tués ?
Tibérine.
Hein ? Pardon ?
Tibérine.
À Tibérine, voilà. Ils sont partis à Tibérine. Et plusieurs de ces moines ont été dans les gens qui ont été exécutés à Tibérine. Voilà. Donc. Le contexte dans lequel
pour un anarchiste travailler tout le temps avec les moines,
tout le temps, bah, non,
mais... ça impose le silence. La dernière nuit, jardin des oliviers, chaque nuit recommencée, la prison de Fresnes. Le meurtre avait lieu hors les murs, mais pas l'agonie et ses sentences. Sa mort, il parlait avec elle depuis 125 jours, arrestation, baignoire, poignée sciée par les menottes, tesson de verre dans les genoux, froid glacial, des cellules qui paralysent mots et attitudes. Était autant de jalons. Sous le regard fermé des gardiens, celui grandiloquent des miradors à travers les géographies illimitées des murs de haute surveillance, il portait les derniers instants d'une vie à peine commencée, comme le sang séché de la torture sur la chemise et le tricot. Sa seule idée, tenir jusqu'au jour limite de ses 18 ans. « Bon anniversaire, mon grand !» aurait écrit le père. « Nous t'embrassons, mon Roger !» aurait ajouté la mère. De l'être, il n'y eut que la sienne pour dire adieu. Et souvenez-vous, il fut exécuté la veille. Nuit des quartiers de haute surveillance, quelques heures barricades dressées devant la venue de l'aube. Les cellules des condamnés se remplissent de siècles, de millénaires, d'années-lumière, de préhistoire. Le futur rejoint le passé. Et tout recommence sans trajet, depuis les origines de la création, des milliers d'existences pour tous, en même temps. Et pour chacun, une solitude de planète blessée. Ils sont cinq dans la même cellule, tous condamnés aux mêmes rêves, aux mêmes années-lumière, cinq visages aux portes arrachées, comme celles des baraques de la zone. La barricade de livres de Madrid et les massacres d'Arméniens et les pogroms de Bessarabie et les exilés garibaldiens et l'enfant d'un égoutier breton venu travailler à Paris essaie de se tenir chaud, dos contre dos, marqué par la brûlure des cigarettes de policiers. Se parler. Les mots de ces nuits sans jambes ne sont que l'attente d'une absence, et ceux dont ils sont les cornes de brume des êtres boués sur une mer de reflets, une façon qu'a l'univers de se penser. Les derniers lieux traversés seront leur testament. Nuit en dehors du temps et des principes, mais écrasée sous une synagogue, encore visitée par les corps qui chantent et déjà abandonnés par toutes les pierres. Nous vivons une nuit qui essaie de s'envoler comme l'oiseau trop sauvage pour être et en qui retombe constamment avec un bruit d'office interrompu. Patiemment, le rescapé des pogroms essaie de retrouver sur les murs le dessin des pierres en place. C'est sa façon d'être encore au monde. Deux pas à droite, deux pas à gauche, les barricades de Madrid sont toujours là. L'ex-milicien se trouve dans les marges des livres de philosophie et de linguistique, derrière lesquels sont tombés des amis. Deux pas à droite, deux pas à gauche, les livres ont été depuis jetés au feu, mais il en parcourt encore les marges. C'est sa liberté de graffiti qu'aucun mur, aucune colonne de dictionnaire ne peuvent circonscrire. La tentative toujours recommencée de restituer le soleil à la parole envahie. Les couloirs de la haute surveillance secrètent leurs propres témoins, leurs couleurs. Et la façon de sourire à la lumière jaune des ampoules, comme dans un kaléidoscope, avec toujours les mêmes combinaisons. Le matin, témoin rouge, ses bras tendus vers le ciel et sa redécouverte du monde. Frère d'incertitude, quelle joie de vous voir chaque instant respirer encore. La mi-journée, témoin jaune, son moment de prière, amputé de toute ombre. Frère d'un jugement de tribunal militaire, demain, le monde va s'appauvrir de votre façon de le regarder. La nuit, témoin bleu, son cortège d'échéance et ses étoiles visibles. Frère, frère d'une seule heure, pourquoi rêver encore de lumière devant leurs regards qui vont s'éteindre? Puis, les nouant et les dénouant dans une seule attente, le témoin blanc. Vous avez été, frère, le trajet de l'arc sur tous les ciels de la page d'histoire. C'est à lui que le garibaldien s'est adressé. Dites au père que je garde son tricot pour ne pas trembler de froid devant les fusils. Et voici enfin l'aube, mère mutilée, de tant de possibilités qui désormais iront toutes à la ligne. Mais dans quel récit ? Le corps déchiqueté, regarder sur soi le futur impact par où la vie s'en ira. Invraisemblance, merveille et angoisse, pas où la vie s'en ira aussi. Brûler les étapes qui, d'ailleurs, se brûleront d'elles-mêmes. Être déjà au-delà de l'exécution. Faire que ce soit une gageure contre laquelle les rotations de la terre ne pourront rien. La vie n'est pas dans le temps, mais dans l'usage. Ainsi parle le condamné venu d'Arménie à l'âge de 3 ans sur un bateau de la Croix-Rouge. Il est né dans des mots turcs. On coupait la langue qui disait l'arménien et maintenant il meurt en français. Ses grands-parents, sa mère, ses 2 sœurs ont été tués en 3 parlers musulmans, sur les bords de l'étang de Karet. Maintenant, c'est le haut de cet étang qui, de veille passée, en veille future, brille sur les visages qui l'entourent. Tous, ensemble, l'aurore de la création, parmi les 23 fusillés ce jour-là, Roger, le fils de l'égoutier breton Rouxel, était le seul à croire au ciel. À l'entrée du fort du Mont Valérien, son nom ne peut être articulé dans le parler allemand des exécuteurs. Il était le 18e entre le garibaldien qui disait « Mamma, mère en piémontais » et le juif de Roumanie, qui ne disait rien, il comprit soudain que par-delà son nom et à cause de lui, il était éternel et irremplaçable. Devant la mitrailleuse, ils sont devenus rose des vents et cris de l'enfance. Seul l'enfance peut déchiffrer les derniers moments du partisan et sait répondre au lieu où il s'abat. Début de mots, restant de gestes, en chacun une solitude qui ne sait pas en quelle langue mourir. Voilà.
Voilà, donc ces moines de Tamier ont porté ce texte. Voilà. Alors, ce qui était assez rigolo, c'est le tournage, parce que ils ont chanté dans le cloître, dans l'église, etc. Et donc, à un moment parmi les tournages, à un moment donné, ils rentrent dans la chapelle, dans laquelle il y avait des personnes qui étaient là pour la messe. Et ils rentrent tous ensemble, et il y a Getty qui dit « moteur !» Et ils rentrent, comme ça, et ils se lèvent, et puis Getty dit « stop !» Il était derrière, il était caché. Et donc les moines qui savaient fort bien qu'il y avait plusieurs prises, comme on dit, donc ils s'arrêtent, ils repartent, et à chaque fois que Getty disait « moteur », et donc les moines rentraient dans la... les gens qui étaient là, la trentaine de personnes, se levaient évidemment, parce que persuadaient que la messe allait commencer, etc. Et donc ça a duré comme quelques temps. Alors l'autre aussi élément, c'était ces moines, ils le recevaient dans l'église, on recevait des femmes et des hommes, mais à l'intérieur de l'abbaye, enfin du cloître, etc., on ne recevait que des hommes. Donc effectivement, il y a quelques... quelques amis comme ça qui elles sont restées à côté, enfin ça, donc elles ne pouvaient pas participer totalement à la prise au travail qui avait été réalisé. Mais le film est l'un des moines après a travaillé avec Getty. Alors, certains sont partis, comme je disais tout à l'heure, mais il y en a un qui a fait un morceau des éléments de musique qu'il a composé pour le film en Irlande. Et donc, je ne me souviens plus de son nom.
C'était une autre résistance.
Voilà, c'est pas peu de temps après, donc on est en 79, pour 77, 78, et le film va passer en 79 à la télévision. Et en Irlande, en 79, Getty va travailler, 80, enfin 79, disons, Getty va travailler à une grande œuvre qui sera éditée beaucoup plus tard, qui s'appellera La parole errante. Donc ce grand livre de 1780 pages dont Pauline Tanon a eu l'audace de dire « je vais en faire un résumé ».
Et
l'audace réussit, je dis, comme je disais tout à l'heure. Et donc, et puis on a été en Irlande en 80, invité par un ami irlandais qui travaillait sur des pièces de Getty, qui avait été étudiant à Strasbourg. Et comme il avait été étudiant à Strasbourg, il a remonté exactement les deux pièces qui avaient été créées à Strasbourg par le théâtre universitaire de Strasbourg, qui à l'époque, dans les années 60, était animé par Jean Hurstel. Donc il a monté La Cigogne, une pièce sur Nagasaki, Hiroshima, sur la bombe. Et il a monté la deuxième existence du camp de Tattenberg, qui est une pièce sur la réflexion sur le camp après. Et puis, il invite Getty dans les deux cas, et qui va voir, etc. Puis il va faire un Getty, Joseph, porte pas 6-2 ans, Joseph Long, invite Getty à aller à Derry, en Irlande du Nord. À l'époque, on l'appelait encore Londonderry sur les papiers, mais maintenant, on s'appelle Derry simplement. Donc les Irlandais l'appelaient Derry, sauf les Irlandais qui se revendiquaient d'origine anglaise, qui l'appelaient Londonderry. Donc il va là-bas, on va rencontrer un type formidable, qui s'appelle Paddy Doherty, qui est un homme qui a consacré sa vie à se dire que l'Irlande mérite mieux que de mourir pour elle. Il faut vivre pour l'Irlande. Donc, mais pour ça, il a fait un travail. Alors, il a récupéré d'abord une immense bâtisse qui était une ancienne école coloniale. Et il a créé des ateliers, ateliers bois, ateliers fer, ateliers maçonnerie. Il fait tout ce qu'on fait pour reconstruire une maison. Et simplement, la particularité de ces ateliers, qui est officielle, entre guillemets, enfin, ben, c'est qu'il y avait des protestants et il y avait des catholiques. Jeunes protestants, jeunes catholiques. Et donc, qui étaient dans une situation de chômage, etc. Une fois par semaine, il y avait une chose qui était formidable, c'est qu'une fois par semaine, il y avait un sujet qui était donné. Vous êtes catholique, vous allez défendre la cause, enfin le point de vue des protestants. Alors, le point de vue des protestants, il y en a plusieurs. Il y a les protestants de l'UDI, il y a les protestants qui sont favorables à l'anglais, mais qui ne sont pas du tout favorables à la guérilla. Et chez les catholiques, pareil, il y avait les... Et donc, chacun, en revanche, les protestants, il leur disait, vous allez défendre les différents points de vue des catholiques. Donc il y avait un débat le vendredi après-midi qui était incroyablement passionnant, animé, etc. Et avec une chose qui était très étrange, c'est qu'on avait été voir ces débats. Mais on voyait surtout plein de gens qui faisaient des signes. Pourquoi ils s'agitent comme ça avec leurs mains, d'autant plus que ces signes voulaient dire quelque chose. C'est qu'il y a une bonne partie d'entre eux qui s'exprimaient en langage sourd-muet. Et pourquoi ? Parce que le professeur de communication du workshop, c'est comme ça qu'il l'appelait, à Derry, il était sourd et muet. Il leur apprenait la langue des sourds et des muets, et donc qui était formidable parce qu'il l'avait totalement intégré. Et aucun d'entre eux, évidemment, n'était en dehors du professeur. Aucun d'entre eux n'était. Et puis, bon, Getty voit ces gens, etc. Et puis, il voit passer des soldats comme ça. et avec se promenant avec les Irlandais, il voit passer des soldats et il dit aux Irlandais, un peu stupéfait, vous allez comprendre pourquoi ils sont stupéfaits, il dit aux Irlandais, ah, mon régiment. Effectivement, comme dans le livre c'est indiqué, en 1944, Yatti est en Angleterre et dans les parachutistes, dans les SAS, Special Air Service. Voilà. Et donc, d'un seul coup, il y a une vraie réflexion, il y a un truc qui revient au visage de Yatti, c'est que ce Special Air Service crée dans les années 40. Pour se battre contre le fascisme, d'un seul coup, ils sont en train de tirer sur les Irlandais. Pas tous les jours, mais dont on sait quand même que des milliers de morts en Irlande sont en partie liés à eux. Et donc, les Irlandais regardent Yatti un peu étonnés. Et puis, à partir de là, enfin, je ne vais pas raconter, parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes à raconter, c'est très long, on en parle un peu dans le livre. Et à partir de là, un projet va s'imaginer. Ce projet sera possible grâce à trois personnes. D'un côté, Paddy Doherty, de ce que je vous indiquais tout à l'heure, qui va monter une association qui va s'appeler l'AGIT. C'est un anagramme de Yatti, mais AGIT, c'est Yatti, mais ça veut dire quelque chose en anglais. Je ne sais plus ce que ça voulait dire, mais ça veut dire quelque chose en anglais. Il va créer cette structure pour récupérer des sous localement, pas des subventions, des sous auprès des gens, etc. N'hésitant pas à la sortie des messes, parce qu'adhérer avec les catholiques sont largement majoritaires, à la sortie des messes en disant. Et pour le film, donner de l'argent, etc. Bon, voilà, c'était. Et puis, l'autre élément, c'est qu'il y a deux réalisateurs que vous connaissez de nom sûrement, vous avez peut-être vu sur leur dernier film, qui s'appellent Jean-Pierre et Luc Dardenne, qui ont été des élèves de Yatti dans les années 70. Là aussi, on en parle un peu dans le livre. Et que Yatti va prendre comme assistant caméra et assistant réalisateur pour Luc Dardenne. Et. Un ami de Belge qui s'appelle Henri Inberg, qui a énormément soutenu les frères Dardenne et qui les a vraiment, en dehors de Yatti, qui les a vraiment mis sur les rails, sur un plan de la production, etc. Donc, a fait que la télévision belge a financé largement ce film. Et puis.
Il a eu trois fois le prix à Cannes.
Deux fois.
Et il devait l'avoir maintenant.
Pas toujours, mais ce sera pour le prochain. Et le troisième, c'est une histoire. Donc c'est le Centre national du cinéma, l'avance sur recette qui a aidé bien ce film. Mais on présente un premier dossier, c'est refusé. Et par un heureux hasard, je connaissais par le fait de mes activités de jeunesse, militant autour de l'UNEF, je connaissais le secrétaire de la commission qui me téléphone et me dit. Le projet de Yatti, il est passé à minuit, ils étaient fatigués, il y en avait trois qui étaient pour, il y en avait quatre qui étaient contre, mais il n'a pas vraiment été défendu. Va donc voir Daniel Delorme qui était président de la commission, va donc voir Daniel Delorme avec Yatti et représente d'une autre manière. L'autre manière, ce n'était pas le contenu, l'autre manière, c'était le premier projet, on l'avait présenté en tant que Yatti, c'est-à-dire en tant que réalisateur. On présente le dossier avec un producteur. On trouve un producteur qui a une société qui n'existe plus, qui s'appelle Tricontinental Productions. On va voir Daniel Delorme. On arrive avec une trois quarts d'heure de retard, etc. Enfin bon, qu'importe. Mais elle nous reçoit excessivement gentiment. Yatti lui dit les mots qu'il faut. Et effectivement, le dossier est passé positivement. Et donc, ce qui a permis de réaliser ce film dans des conditions. Pas trop mauvaise pour l'ensemble des gens qui y travaillent. Et le père, je ne me souviens plus le nom, a fait une partie de la musique, c'est pour ça que je parlais du film sur l'Irlande, a fait une partie de la musique de ce film. Voilà. Donc, et le film s'appelle « Nous étions tous des noms d'arbres ». Parce que Derré, dans les langages gaéliques, comme ça, c'était petite forêt de chêne ou petit chêne, hein, comme ça. Voilà, donc, nous étions tous des noms d'arbres en référence à l'alphabet ogamique. Voilà.